Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si vous aviez dit à Versailles Rhétorique, à ses copains, que le Gaulois allait disparaître un jour, ils auraient éclaté de rire.
C'est vrai que pour faire Erasmus à Barcelone, il faut parler catalan.
Donc laisser tomber une langue, c'est comme si on disait quand Notre-Dame de Paris a brûlé, bah on la laisse tomber, c'est pas grave, on a d'autres cathédrales.
Salut, c'est Xavier Yvon. Cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Votre smartphone vous réveille. Ouf, c'est enfin vendredi. Une douche, un brushing, un jean et un t-shirt. Et c'est parti, vous sautez dans le métro.
Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone.
Au travail, la journée s'annonce dense, la deadline de votre projet, c'est ce soir.
Je suis trop speed là.
Pour le déjeuner, ce sera donc un sandwich mangé sur un coin de bureau avec un regard jaloux pour votre collègue qui a le temps pour une pause shopping. L'après-midi défile.
T'as pas un chewing-gum ?
Vous bossez non-stop, vous checkez vos mails une dernière fois et ça y est, c'est enfin le week-end.
Je vais vous prendre une IPA s'il vous plaît.
On se détend, mais pas trop, il faut relayer la babysitter et demain midi, c'est brunch à la maison. Mon histoire n'était pas bien longue, mais j'ai quand même réussi à y caser pas moins de 17 mots ou expressions en anglais. Si, si, vous pouvez réécouter si vous ne me croyez pas. Et pourtant, vous avez tout compris, hein, parce que la langue de Shakespeare a pris et continue de prendre toujours plus de place dans nos vies. Finira-t-elle par remplacer carrément le français ? Dans cet épisode, on vous explique pourquoi cette idée n'est pas si loufoque et ce n'est pas un mot anglais.
On ne parle plus gaulois en France. Et pourquoi ? Nos ancêtres, les Gaulois, parlaient gaulois, on devrait parler gaulois. Pourquoi ? Parce que les Romains ont fait un truc très simple. Ils ont dit, pour être promu socialement, il faut parler latin. Et à partir du moment où le latin est devenu la langue de la promotion sociale, bah, les Gaulois ont compris que pour s'élever dans la société, il fallait passer au latin. Alors les premiers qui l'ont fait, ça a été les élites gauloises. Et puis petit à petit, tout le monde a suivi. Et au bout de quelques siècles, eh bien, tout le monde était passé au latin. Alors c'était pas le latin de Cicéron, c'était un latin de cuisine un petit peu, mais voilà.
Je vous présente Michel Feltin-Palas, journaliste à l'Express, amoureux des langues. C'est notre vigie du français ici à la rédaction. Il a même écrit un livre, Le français, une si fabuleuse histoire chez Larousse. Tu parles combien de langues toi, Michel ?
Alors j'en parle une très bien, c'est le français, c'est ma langue maternelle. J'en parle deux assez mal, en plus, l'anglais et le gascon, l'occitan, si tu préfères.
Alors, je reviens sur l'histoire que tu viens de nous raconter, celle de la disparition du gaulois, qui remonte donc au 5e siècle de notre ère. L'exemple est frappant, mais il est un peu lointain, Michel.
Oui, mais ça continue. La France est un pays multilingue avec de très nombreuses langues dites régionales. Elles ne sont pas mortes, les langues régionales, pas toutes. Certaines le sont déjà, mais elles ont 10 ou 12 siècles, voire plus pour certaines, et elles sont toutes considérées comme menacées d'extinction par l'UNESCO, du moins en métropole.
Pourquoi elles sont menacées d'extinction ?
Même chose que pour le gaulois. Là, c'est le français qui a été choisi comme langue de la promotion sociale. Et puis, ça a commencé le même phénomène. Les élites de Strasbourg, de Toulouse ou de Brest ont commencé à parler français. Le peuple a petit à petit suivi. On a fait du français la seule langue de l'école. Ça, ça a été décisif.
Des mots qu'on mange surtout en famille parce qu'à l'extérieur, c'est parfois mal vu, mal compris, un peu, comment dire, connoté.
Chez nous, on parlait pas de toi, quoi. Mais... lorsqu'on sortait de chez nous, on parlait français.
En fait, à l'école, à l'époque, on nous interdisait de parler patois.
Et du coup, petit à petit, les gens ont compris que pour s'élever socialement et pour que leurs enfants vivent mieux, il fallait leur parler français.
Mais tu l'as dit, elles ne sont pas mortes, elles sont encore présentes. Est-ce qu'elles sont encore menacées aujourd'hui ?
Oui, elles sont menacées, puisque d'une part, le français est toujours la seule langue de la promotion sociale. On ne peut pas devenir médecin en parlant breton ou corse, pour prendre deux exemples. Et puis, surtout, parce que maintenant, donc, la transmission dans les familles s'est éteinte. La seule chance de les sauver, c'est par l'école, en formant des locuteurs. Et dans l'actualité récente, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la méthode de l'immersion, c'est-à-dire celle où tous les cours sont donnés en breton, par exemple, pour prendre cet exemple-là.
Créée il y a un peu plus de 40 ans, les écoles du réseau D1 appliquent le principe de l'immersion. Tous les cours sont en breton.
Les triangles d'Hermès.
Et donc, une fois qu'on a coupé la transmission dans les familles et qu'on interdit de former des nouveaux locuteurs, bien, il n'y aura plus de locuteurs si on continue comme ça.
Mais donc, si je te suis bien, c'est une question politique.
C'est une question politique, bien sûr. Si tu prends l'exemple du Québec, par exemple, où on parle français, si le statut du français au Québec était le même que celui du breton en Bretagne, il n'y aurait plus de locuteurs du français au Québec. Mmh. Si toute l'école était en anglais, par exemple, au Québec, si tous les grands médias étaient en anglais, si la politique était en anglais, si les administrations fonctionnent en anglais, il n'y a plus de locuteurs du français très rapidement. La langue, c'est toujours une question linguistique, mais aussi une question politique. Les langues ne meurent pas par hasard, les langues ne s'étendent pas par hasard.
Tu parles du Québec, mais plus près de nous, il y a aussi l'exemple de l'autre côté des Pyrénées, de l'Espagne, où il y a des langues régionales très vivantes.
Alors, c'est intéressant parce que ces langues sont parlées dans deux pays. Si on prend le catalan ou le basque, c'est la même langue qui est parlée en France et en Espagne, et les taux de locuteurs ne sont pas du tout les mêmes. Certains croient qu'en France, les langues régionales disparaissent parce qu'elles ne seraient pas adaptées à la modernité. Il faudrait expliquer pourquoi cette langue est adaptée à la modernité en Espagne et pas en France, alors que c'est exactement la même et que ce sont des pays comparables. Non, la raison, c'est que les politiques linguistiques ne sont pas les mêmes. L'exemple est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a des mouvements autonomistes, voire indépendantistes. Et donc, on voit bien que la langue est aussi une question politique et que tout dépend des mesures politiques qui sont prises ou non en leur faveur ou en leur défaveur.
C'est vrai que pour faire Erasmus à Barcelone, il faut parler catalan.
Voilà, c'est un exemple. Effectivement, les gens disent, non, il faudrait ne pas parler catalan. Mais si on ne fait pas ça, les langues régressent. Effectivement, on peut mener ses études à Perpignan en français, mais le catalan à Perpignan ne va pas très très bien.
Et en France, donc, les décisions politiques ont plutôt favorisé, vraiment favorisé le français au détriment des autres langues. Pourtant, Michel, les anglicismes comme ceux qu'on s'amusait à recenser au début de ce podcast, ils sont présents dans les termes employés, même par les pouvoirs publics.
C'est ça qui est plus ennuyeux. Alors moi, je n'ai strictement rien contre l'anglais, je le précise. Moi, je suis un amoureux de la diversité culturelle, donc j'adore l'anglais. Comme j'adore toutes les langues, je veux simplement pas que l'anglais devienne la langue unique. Voilà, c'est ma seule critique. Et donc, moi, ce qui me gêne, c'est quand des Français entre eux se mettent à parler anglais. Et ça me gêne encore plus quand l'exemple vient de très haut, puisque si je prends trois exemples récents, le gouvernement actuel a lancé le pass sanitaire sans E. Mm-hmm. Pass, en français, ça s'écrit avec un E. Marcel Aimé, le passe-partout, mais il y en a d'autres, passeport, etc. Donc, une décision du gouvernement. Le pire du pire, c'est le pass culture sans E par le ministère de la Culture. C'est quand même assez spécial. Et puis, symbole du symbole, la carte nationale d'identité traduite en anglais, ce qui montre bien que dans les élites françaises, y compris politiques, il y a une sorte de fascination pour l'anglais. Les plus sévères parlent de honte de soi. C'est-à-dire comme si le français était par nature ringard et que l'anglais était par nature moderne. Et quand un peuple commence à avoir honte de sa langue, là, ça commence à être le début du déclin.
Oui, donc la profusion de ces anglicismes peut en agacer certains, dont toi, Michel, tu nous l'as dit. Mais si on pose cette question d'une hypothétique disparition du français un jour, c'est parce que certains indices commencent à rappeler ce qui s'est passé pour le Gaulois.
Même si tu enchaînes les calls et les brainstormings dans l'open space, tu ne parles pas vraiment anglais.
Speak English, speak Wall Street English.
Michel, est-ce qu'on peut dire que la maîtrise de l'anglais est un prérequis aujourd'hui, notamment pour s'insérer dans le marché du travail en France?
Oui, ça n'est pas gênant dans certains cas. C'est-à-dire, si on doit faire carrière dans le tourisme ou dans le commerce international, l'anglais est de fait la langue internationale, c'est tout à fait normal. Ce qui est plus gênant, c'est quand l'anglais est imposé dans des matières qui ne requièrent pas la maîtrise de l'anglais. J'ai un exemple formidable ou exaspérant, au choix. Un très bon niveau d'anglais a été imposé pour enseigner le français à l'étranger dans des pays francophones. On voit bien que là, il commence à se passer des choses un peu bizarres. L'anglais est imposé dans des BTS, dans des fonctions qui ne nécessitent pas l'anglais. Donc, on voit bien qu'on arrive dans un système. Il y a eu la loi Fioraso, il y a quelque temps, qui avait assoupli la loi dite Toubon sur la défense du français à l'université. On voit bien qu'on en fait une question de principe. Et qu'il faut parler anglais. Pourquoi ? Parce qu'il faut parler anglais. Voilà.
Mais c'est quoi le but de ces décisions, justement ?
Alors, dans l'esprit du ministère ou des gouvernements, c'est de dire qu'il faut qu'on puisse attirer en France des étudiants qui veulent aussi maîtriser l'anglais. Oui, le problème, c'est que si moi, j'étais un étudiant africain ou asiatique et que je veux maîtriser l'anglais, je vais aller dans un pays anglophone, a priori. Et que si nous-mêmes ne croyons pas que le français est suffisant pour maîtriser les matières scientifiques, on envoie à l'étranger un message qui consiste à dire notre langue est fichue.
Cet enseignement supérieur, donc de plus en plus anglophone, on en voit déjà les effets. Il y a des lycées qui proposent des filières bilingues pour préparer leurs élèves. Puis il y a les parents qui prennent de plus en plus de babysitters. Alors je ne l'ai pas fait exprès, c'est un mot anglais, mais des babysitters qui parlent anglais.
Ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, on choisit une langue parce qu'elle est utile. Pourquoi nos ancêtres qui parlaient qui breton, qui basque, qui occitan, qui corse, etc., sont passés au français? Parce que le français était nécessaire pour vivre simplement. Il y a des pays, moi j'aime beaucoup la Suisse de ce point de vue-là, quand vous allez à Genève, vous pouvez faire carrière en français. Et quand vous allez à Bâle, vous pouvez faire carrière en allemand. Et quand vous allez à Lugano, vous pouvez faire carrière en italien. Donc on voit bien qu'il est possible, c'est plus compliqué, mais c'est possible, de garder un plurilinguisme dans le pays. Mais la condition indispensable, c'est de faire en sorte que les langues soient utiles. Mmh. Voilà. Donc en France, effectivement, plus on rendra l'anglais utile dans les études supérieures, plus on va convaincre les gens qu'il faut passer à l'anglais dans les études supérieures, mais du coup au lycée, mais au collège, et puis du coup dans les familles. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos langues régionales.
Et ça va creuser les inégalités.
Effectivement, pour avoir une babysitter qui parle anglais, ben, quand vous êtes cadre supérieur à Paris, c'est assez facile. Quand vous êtes ouvrier dans l'industrie à Troyes ou à Besançon, c'est plus compliqué.
Et quand même, Michel, on parle là d'une disparition du français au profit de l'anglais. Est-ce que ça a vraiment des chances d'arriver ?
Non, alors, je veux rassurer les auditeurs, ça ne se produira pas, en tout cas, de notre vivant, du vivant de nos enfants et sans doute de nos petits-enfants. Mais c'est là le piège. Si vous aviez dit à Versailles Rhétorix et à ses copains que le Gaulois allait disparaître un jour, ils auraient éclaté de rire.
J'imagine la scène.
Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
Il y a deux siècles, si vous aviez dit à un Perpignanais que le catalan allait disparaître à Perpignan, avec un habitant de Brest qui aurait plus de gens qui parleraient breton à Brest, ou à Pau qui aurait plus de gens qui parleraient béarnais à Pau, les gens auraient éclaté de rire.
Dans leur langue.
Ils auraient éclaté de rire dans leur langue. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas menacé, et c'est ça, d'un coup. Mais on met le doigt dans un engrenage qu'on peut arrêter. Il n'y a pas de danger. Simplement, il faut avoir conscience qu'il y a un engrenage et que si on continue comme ça, ça peut mal se finir parce que des langues disparaissent à travers le monde tout le temps.
Donc, ça peut prendre plusieurs siècles.
Ça prendrait plusieurs siècles.
Donc, la loupe ne sera plus là. En tout cas, l'équipe actuelle, hein, peut-être que la loupe va traverser les siècles. Michel, si l'anglais devait finir par remplacer le français, est-ce que ce serait si grave que ça? Parce qu'on pourrait toujours se comprendre entre nous.
Oui, alors bien sûr, si on considère qu'une langue ne sert qu'à transmettre une information, il n'y a aucun problème. Je peux dire, il est 10h du matin, mon train arrive à 19h, en anglais, il n'y a pas de problème.
Vas-y,
le problème, c'est que les langues servent... non, pas de piège. On m'a dit que tu étais sympathique, je suis très déçu. Non, le problème, c'est que les langues, il y a quatre dangers au moins. D'abord, parler différemment, c'est aussi penser différemment. J'aime beaucoup citer la phrase d'un grand mathématicien français qui s'appelle Laurent Laforgue. Il dit ceci, ce n'est pas parce que l'école de mathématiques française est influente qu'elle peut encore publier en français, c'est parce qu'elle publie en français qu'elle est puissante, car cela la conduit à emprunter des chemins de réflexion différents. Voilà, ça c'est très important à comprendre, c'est prouvé scientifiquement, il y a des connexions neuronales différentes qui se font selon les langues, et donc ça permet de penser différemment. Deuxièmement, les langues sont des objets de culture. Ce sont des œuvres du génie de l'humanité, si tu veux, quelles que soient les langues. Donc, laisser tomber une langue, c'est comme si on disait quand Notre-Dame de Paris a brûlé, ben, on la laisse tomber, c'est pas grave, on a d'autres cathédrales. La troisième chose qui est importante, c'est que la standardisation culturelle, c'est toujours une régression. On peut aussi ne manger que des hamburgers tous les jours de l'année. On peut construire des villes en reproduisant à l'identique le même immeuble. C'est possible, mais c'est d'un ennui mortel. On combat la standardisation culturelle dans tous les domaines. Pourquoi ne le ferait-on pas pour les langues? Et puis le dernier point, j'en termine avec ça, c'est que c'est un enjeu d'influence. La Chine, elle ouvre des instituts Confucius.
Pour renforcer son influence, Pékin a créé depuis 2004 plus de 500 instituts Confucius, surtout en Europe et aux États-Unis, et 46 en Afrique. On y trouve des cours gratuits pour apprendre le mandarin, les arts martiaux, mais attention, prière de ne pas y parler de Taïwan ou du Tibet.
Les Américains ont très bien compris qu'en imposant leur langue, ils imposent leur vision du monde et leurs marchandises. Eisenhower disait « Le meilleur ambassadeur de l'Amérique, c'est le jazz. » Et donc, les Américains et les Chinois, ils défendent leur langue. Ils ont raison, de leur point de vue. La France et l'Europe, bizarrement, elles font le contraire. Elles se tirent une balle dans le pied en promouvant l'anglais, qui est la langue de leur rival commercial.
Eh bien, merci Michel d'avoir participé à ce balado, puisque c'est comme ça qu'on dit podcast chez nos amis québécois. Ils disent aussi infolettre pour newsletter, et vous pouvez vous inscrire gratuitement à celle de Michel sur le bout des langues, tous les mardis dans votre messagerie électronique. Si cet épisode vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Alors désolé Michel, elles ont tout un nom à consonance anglo-saxonne, Spotify, Apple Podcast ou 10 heures pour ne citer qu'elle. Et puis pour nous écrire, l'adresse c'est toujours laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Hold up. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.